On va dire que c'est l'histoire des Huguenots. Vous reconnaîtrez des passages.
Ça introduit vraiment bien le sujet de cet après-midi. On va parler de l'Église fidèle. Un de mes amis à Ussel m'a montré un livre qui s'appelle « L'Église ignorée ». Quand on étudie l'histoire de l'Église, en France, n'importe où, on étudie l'histoire de l'Église chrétienne, l'Église catholique. On a liste de tous les papes qui se sont succédés. Et on a l'impression qu'il n'y a jamais eu qu'une seule église qui a proclamé l'évangile. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'à côté, il y a toujours eu des gens qui voulaient rester fidèles à la parole de Dieu. Et on va parler un peu de ces gens-là aujourd'hui. Jésus a dit ceci, Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Simon Pierre, tu es Pierre. Et sur ce roc, parce que le mot n'est pas le même, Pierre, c'est Pétros, c'est un petit caillou. Mais sur le rocher, Pétra, je bâtirai mon église, disait Jésus. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Autrement, Jésus a dit, je vais bâtir une église sur moi-même, le roc, et je vais vaincre l'enfer. Et chaque fois que quelqu'un vient à Jésus, Satan est obligé de lâcher une de ses proies et le Seigneur le libère. Amen. Et donc, Jésus n'a jamais dit qu'on verrait une ligne tout à fait claire de toutes les églises, que ça sera quelque chose de public, mais il a dit qu'il y aura toujours des gens qui croient en moi dans le monde. Il y aura toujours des gens fidèles. Et beaucoup de ces gens, au cours des siècles, ont été martyrisés, ont été tués, leurs écrits ont été brûlés, et on ne peut pas connaître toute leur histoire. Quand vous avez des gens qui vivent pour Dieu et qui écrivent leur histoire, et que les persécuteurs brûlent leurs écrits, vous n'avez pas de trace écrite. Donc, si les gens ne sont pas là pour raconter cette histoire, il y a beaucoup de détails qu'on ne connaît pas. Mais on sait qu'ils ont existé, on sait qu'ils ont été fidèles. Alors, il y a les églises fidèles au Seigneur ont été appelées de toutes sortes de noms au cours des siècles. Des noms, généralement, des noms qui étaient des noms de moquerie. Mais un des noms qui revient le plus souvent au cours de toute cette histoire, c'est pas le seul, mais un qui vient le plus souvent au cours des histoires, c'est le nom baptiste. Déjà au XVIe siècle, un cardinal catholique a dit, si nous n'avions pas tué par l'épée des baptistes depuis 1200 ans, on aurait une multitude encore parmi nous. Ce qui voulait dire, c'est qu'on a tué des gens que lui appelait des baptistes parce qu'il baptisait les gens par immersion, après le salut. Et c'était, pour l'Église catholique, quelque chose de terrible, un crime que de baptiser les gens en Jésus-Christ, comme la Bible le dit. Alors, cette histoire spécifiquement qu'on appelle des baptistes, le nom vraiment est venu pour la première fois en 1609. C'était deux pasteurs, John Smith et Thomas Elwes, c'était des Anglais. Et en Angleterre, il y avait vous connaissez l'église anglicane, vous avez entendu parler de l'église anglicane, persécutait toutes les autres églises. Et alors ces gens-là ont dit, mais on va bientôt mourir si on ne part pas. Donc ils sont allés en Hollande. Alors en Hollande, il y avait la tolérance. On pouvait être libre d'adorer Dieu comme on voulait. Donc ils sont allés en Hollande avec un groupe de croyants. Ils ont fait une petite église anglaise, mais en Hollande. Et là, en 1909, un des frères, il a écrit un petit exposé. Et il a dit, il critiquait l'église officielle qui persécutait les autres églises. Il a dit, c'est pas normal. Et il a dit, ce qui serait vraiment important, c'est d'avoir une église qui adore Dieu en esprit et en vérité, selon la Bible. Et pas selon les traditions, juste selon la parole de Dieu. Et il a dit également, ce qui serait vraiment important, ce que nous demandons, c'est que l'État ne se mêle pas des affaires de l'église, et que l'Église ne se mêle pas des affaires de l'État. Comme Jésus lui-même a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut savoir, par exemple, en France, jusqu'à 1905, il n'était pas possible de fonder légalement une Église évangélique en France. Il n'y avait que l'Église catholique. Et si vous êtes âgé, peut-être vos parents ou vos grands-parents vous ont fait savoir que quand un enfant est né dans une commune, il fallait qu'il soit baptisé à l'église et on mettait son nom sur le registre d'état civil. C'est l'église catholique qui tenait l'état civil pour la République. Et une fois que la République française a été fondée, peu à peu, ils ont dit, bon, maintenant, l'état civil, les naissances, les décès, c'est plutôt à l'État de le faire, ce n'est pas à l'Église de le faire. Mais c'est venu très tardivement. Ce qui fait que il y avait une seule Église, c'était l'Église du roi de France, l'Église officielle, et si vous n'en faisiez pas partie, vous étiez persécuté. Et si vous ne vouliez pas y participer, on vous considérait dangereux, vous êtes contre le roi, puisque vous êtes contre l'Église. Et donc déjà en 1609, ces pasteurs ont dit, ce qui serait bien, ce qui serait important, c'est que tout le monde soit de bons citoyens, quand le roi ou le gouvernement donne des lois, on obéit à ces lois. Mais que le gouvernement laisse les gens libres d'adorer Dieu comme ils veulent. Qu'on ne fasse pas de persécution religieuse. Ça s'appelle la liberté de conscience. Aujourd'hui, nous l'avons. On a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est on peut croire ce qu'on veut. Hein? On peut croire à l'évangile, on peut croire au bouddhisme, on peut croire à l'islam, on peut croire au catholicisme, on peut être athée. Et on peut se promener dans la rue, on peut distribuer des papiers qui disent ce que l'on croit. Aucun problème. Les gens ne sont pas obligés de vous suivre. Vous les informez, ils disent oui ou disent non. Chacun est libre, mais il faut quand même obéir au gouvernement. Et quand on va trop vite ou on brûle en feu rouge, comme on a parlé tout à l'heure, hop, on a une amende. Ça, c'est la loi de la République. C'est normal, on est des citoyens. Tout le monde est d'accord. Mais quant à ce que je crois dans mon âme pour l'éternité, ça reste ma décision. Et le gouvernement n'a pas à se mêler de ce que je crois, moi, dans mon âme et dans ma conscience. C'est la liberté de conscience. Et avec ça vient la liberté de culte. Nous, on trouve normal de venir ici, il y a église biblique et baptiste indépendante, il peut y avoir n'importe quoi au-dessus de la porte, on entre, on s'assied, on adore Dieu, on chante, on se salue, on s'en va, aucun policier n'est là pour nous arrêter. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Sur la plupart du temps de l'histoire du monde, des gens qui faisaient ça, on pouvait s'attendre à la sortie, à ce que la police nous attrape et nous mette en prison. Et donc la liberté de conscience et la liberté de culte sont des libertés fondamentales qui sont tellement importantes. Si nous allons dans bien des pays du monde aujourd'hui, on n'a pas le droit de se réunir comme nous le faisons ici. On n'a pas du tout le droit. Et d'où vient cette liberté de conscience? Et qui est-ce qui en a parlé? Les premiers, c'était ces fameux baptistes. C'est eux qui en ont parlé en premier. Et donc, on va voir un peu ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une église baptiste ou une église évangélique? On va dire une église biblique. Parce que une bonne église baptiste doit se baser uniquement sur la Bible. Amen. Et vous avez des églises qui n'ont pas le nom baptiste, mais qui se basent sur la Bible. Donc, c'est bien. C'est pareil. C'est pas le nom qui compte. C'est est-ce qu'on se base sur la Bible. C'est ça qui compte. Eh bien, d'abord, la première chose, c'est que dans cette église, chaque personne doit être d'abord convertie à Jésus lui-même personnellement. Pouvoir dire, je sais que Jésus est mon sauveur. Je sais que j'ai placé ma confiance entière dans le sacrifice du Christ pour me sauver. Et aujourd'hui, je sais que Dieu m'a pardonné parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Je ne compte pas sur ma religion, je ne compte pas sur mes bonnes œuvres, je compte sur le fait que Christ a payé pour moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que puisque j'ai placé ma confiance en Christ, je vais m'identifier avec le Seigneur par ce que lui, il a demandé, par le baptême. Alors, bon, en France, on est majoritairement né dans la religion catholique. Donc, à notre naissance, ou peu de temps après, la plupart des enfants ont été portés par leurs parents au prêtre qui les a baptisés, a mis un peu d'huile sur la tête. On a dit baptisé, mais ils ont versé un peu d'eau, l'aspersion, et le bébé est baptisé. Donc, si jamais il meurt en bas âge, les parents sont soulagés parce qu'il dit le bébé, il ira au ciel parce qu'il a été baptisé par le prêtre. Dans la réalité, n'importe quel bébé qui meurt, il va au ciel. Amen. Dieu ne va jamais mettre un bébé en enfer parce que le bébé ne peut pas comprendre. Il ne peut pas faire le choix. Donc Dieu ne va pas le punir parce qu'il ne pouvait pas faire le choix. Il est sous le sang du Christ, il va au ciel. De toute façon, qu'il soit baptisé ou non, ça c'est clair. Mais une fois qu'on arrive à comprendre l'évangile, Dieu nous demande de prendre une décision et d'accepter son offre et de recevoir Christ. Et si on reçoit Christ, ce que le Seigneur veut, ce que Jésus même a fait. On passe par les eaux du baptême, on descend dans l'eau entièrement et on ressort. Ça, c'est un symbole. Je suis mort, enseveli et ressuscité avec Jésus. Et donc, quand on meurt et qu'on est enseveli, bien sûr, on va sous la terre. On n'a même pas quelques gouttes de terre sur la tête. Donc, le baptême par immersion, c'est le seul symbole que Jésus a donné pour montrer qu'on est identifié avec lui. Et avant de faire ça, il faut d'abord croire en Jésus et pouvoir témoigner. Ça, c'était ce que Jésus a dit au premier siècle pour l'Église. Et donc,
un bébé ne peut pas
le comprendre, bien sûr. Et donc, Dieu n'attend pas que les bébés soient baptisés, parce qu'ils ne peuvent pas prendre la décision. Mais un adulte ou un jeune qui comprend, par exemple, comme Thomas, un garçon de cet âge-là, peut comprendre. Il peut recevoir Christ, il peut être baptisé, il peut le demander lui-même. Donc, dans cette église, il y a deux ordonnances. Dans la Bible, il y a deux ordonnances, il y a le baptême, qu'on vient de parler, et il y a le repas du Seigneur. Vous en avez entendu parler. Quand un catholique va à la messe, il est là, le prêtre lève l'hostie et il dit, ceci est mon corps, ceci est mon corps, et il brise l'hostie. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Des centaines de fois. Et puis, il y a quelqu'un en bas, avec des petites hosties, dans un plateau, et les fidèles approchent. Et avant, on mettait l'hostie sur la langue. Maintenant, le fidèle, il prend l'hostie lui-même. Bon, mais ils disent, quand vous recevez l'hostie, vous recevez le corps du Christ. Vous recevez Christ. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Ce que Jésus a enseigné, il a dit, quand vous prenez le repas du Seigneur, vous le faites en mémoire de moi. Ce n'est pas la même chose. En mémoire de lui, ça veut dire que le pain, il reste du pain et ne devient pas le corps du Christ. Parce qu'on n'a pas besoin du corps du Christ. Le corps du Christ est dans le ciel. Tous les chrétiens fêtent l'ascension. Quand Christ est monté au ciel, il est à la droite du Père. Donc, le pain que nous avons dans la main, ce n'est pas le corps du Christ, c'est du pain, mais ça symbolise le corps du Christ. Et en le mangeant, on dit, je remercie le Seigneur parce qu'il a donné son corps pour mon salut. Il a payé pour mon salut. Et puis, on prend aussi la coupe. Et la coupe symbolise le sang du Christ. Ce n'est pas le sang du Christ, mais ça symbolise son sang. Et tous les croyants le prennent avec le pain. Et puis, aussi souvent qu'ils le font, ils annoncent « Jésus est mort ». Et Jésus dit « Vous le faites jusqu'à ce que je revienne ». Et donc, c'est très important cette chose-là parce que dans l'Église catholique, on dit si vous ne recevez pas l'hostie, si vous ne recevez pas le Christ, vous ne gagnez pas des mérites pour aller au ciel. Tandis que le repas du Seigneur, c'est pris par des gens qui sont déjà sauvés. Ils savent qu'ils vont aller au ciel. Ils ne le prennent pas pour aller au ciel, ils le prennent parce qu'ils vont aller au ciel et parce qu'ils sont reconnaissants envers Jésus. C'est un moment d'adoration. Donc, juste deux ordonnances. Donc, il n'y a pas dans le Nouveau Testament la communion solennelle, il n'y a pas la première communion, le mariage, bien sûr, mais pas comme un sacrement, il n'y a pas l'extrême onction, il y a juste le baptême et le repas du Seigneur. Ensuite, dans le Nouveau Testament, on le voit, qui prend les décisions pour l'Église? Qui prend les décisions? C'est des gens de l'Église qui prennent les décisions. Dans l'Église catholique romaine, et je ne suis pas là pour juste critiquer l'Église catholique romaine, je suis là pour expliquer les différences. Dans l'Église catholique romaine, vous le savez, le curé, il parle à son évêque. L'évêque, il parle à son cardinal. Le cardinal, il parle au pape. Le pape décide, il dit au cardinal, qui dit à l'évêque, il dit au prêtre, et le prêtre dit à l'Église. Donc, qui prend les décisions? C'est quelqu'un en haut. Tandis que dans la Bible, quand une décision devait être prise, l'Église se réunissait, tous les croyants se réunissaient, ils en parlaient, ils priaient, ils arrivaient à une conclusion, ils votaient, et c'était ça. C'était une association, c'est-à-dire la décision se fait avec des gens de l'église. C'est très important parce que dans une église comme celle-ci, il va y avoir des lumières à payer, il va y avoir des traités à acheter, il va y avoir plusieurs choses. Qui est-ce qui va payer tout ça? Ce sont les gens de l'église. Qui donc va prendre les décisions? Ce sont les gens de l'église. C'est l'argent qu'ils ont donné au Seigneur. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Ensuite, il y a autre chose. C'est que dans l'église du Nouveau Testament, il n'y a personne qui est plus près de Dieu que les autres. C'est très important. Quand on va dans une église et vous les dames, on va dire, vous n'êtes plus toutes jeunes. Donc vous vous souvenez très bien, quand vous étiez plus jeune, en catholique, toutes les semaines normalement, il allait à la confession. Et le prêtre dit, mon fils, ma fille, as-tu péché cette semaine? Oui, mon père, j'ai péché beaucoup contre le Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, alors j'ai fait ça, et encore, est-ce qu'il y a d'autres? Ah oui, j'ai oublié, et j'ai fait encore celui-ci, et explique-moi un peu comment tu as péché, alors on explique, et puis il dit, maintenant je vous donne l'absolution, vous allez faire tant de je vous salue Marie, tant de notre Père, une bonne œuvre, etc. Et on sortait, et on disait, ouf, mes péchés ont été pardonnés par Dieu et par le prêtre, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionnait. Ça veut dire que le prêtre avait le pouvoir de dire que j'étais pardonné. Ça veut dire que le prêtre est plus près de Dieu que moi. Je dois passer par lui pour atteindre Dieu. Et c'est lui qui dit que Dieu me pardonne. Que dit la Bible? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il, Dieu, est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Dans la Bible, c'est Jésus qui est le seul vrai prêtre. Amen. C'est lui qui a payé pour nos péchés et c'est lui qui accorde le pardon. Il accorde le pardon parce qu'il a versé son sang pour payer pour notre pardon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur n'est pas plus près de Dieu que chacun. Chacun est égal devant Dieu. On a tous différents rôles à jouer. L'un, il va enseigner. L'autre, il va faire le ménage. Un autre, ben, il va prier. Un quatrième, ben, il va faire les comptes pour l'église. Chacun va faire quelque chose. Mais ils sont tous autant près de Dieu que le pasteur. Parce qu'ils sont égaux en Jésus-Christ. Il n'y a pas de prêtre sauf Jésus et on est tous des frères. C'est ce que Jésus dit. Il dit, vous avez un seul Père, Dieu, et vous êtes tous frères. Amen. L'égalité de tous les croyants devant le Seigneur. Après, il y a une seule autorité dans la Bible. Une seule autorité, c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans l'Église catholique romaine, vous avez quelqu'un qui est l'autorité suprême de l'Église. Quand on s'approche de cet homme, on dit « Votre sainteté ». Qui est vraiment saint dans le monde? Est-ce qu'un homme ou une femme, on peut dire « C'est quelqu'un de saint » Est-ce que quelqu'un dans ce monde est rempli de sainteté? Non. Qui est saint? La Bible dit Dieu seul est saint. Dans le ciel, il y a des anges. C'est Isaïe qui donne le saint. Il dit, les anges disent saint, saint, saint est l'Éternel des armées. La terre est pleine de sa gloire. Dieu dans la Bible il dit, je suis seul le saint. On dit du pape, il est le vicaire du Christ sur la terre. Ça veut dire qu'il est le remplaçant du Christ sur la terre. Et donc, quand on s'approche de lui, c'est comme si on s'approchait de Jésus-Christ lui-même. Que dit la Bible? Jésus-Christ est dans le ciel et nous pouvons nous approcher de lui tous par la prière. Il a dit dans Hébreux chapitre 4, Dieu a un trône, le trône de la grâce. Jésus-Christ est assis sur ce trône et il dit, venez pour être secouru dans vos besoins. Si on s'approche du Seigneur, de Dieu, par Jésus, Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. On peut s'approcher du Seigneur quand on veut, par la prière. Donc, Jésus est notre seule autorité. Et puis, une seule base, la Bible. J'ai parlé avec un prêtre, j'ai parlé avec des amis catholiques, beaucoup, mais ils disent, la Bible est la parole de Dieu telle qu'elle est interprétée par l'Église. Vous voyez la différence? Et ils disent, la vérité, c'est la Bible et les traditions. Vous avez tous entendu ça quand vous étiez au catéchisme. La Bible et la tradition de l'Église. Quand le pape, il fait une prononce quelque chose de grand sur la doctrine, on a l'infaillibilité du pape. La doctrine, c'est que quand le pape parle pour l'Église, il ne peut pas commettre une erreur. Est-ce que vous croyez qu'il est possible qu'un homme ne puisse jamais commettre d'erreur et être infaillible? Non, on est tous des pécheurs. Et je ne veux pas manquer de respect pour le pape François. Il est un homme comme nous tous, mais il n'est pas infaillible, et nous non plus. Qui est infaillible sinon Dieu lui-même et Jésus-Christ et la parole de Dieu? Et donc l'Église de Dieu se base sur la parole de Dieu uniquement. Donc la parole de Dieu, dans un passage, ça explique un autre passage. La parole de Dieu s'explique toute seule et on n'a pas besoin d'avoir une autre autorité à côté. C'est la parole de Dieu seule. Vous savez, cette Bible, depuis qu'elle est écrite, ça fait 2000 ans, presque 2000 ans qu'elle est totalement écrite. Et aujourd'hui encore, nous avons 5000 copies de cette Bible en grec, dans la langue où c'était écrit. Et toutes ces copies sont fidèles à 99,99%. C'est-à-dire qu'on a une Bible qui n'a jamais changé, qui n'a jamais été falsifiée. Parfois, on entend des gens qui disent, oui, vous savez, la Bible, ça a été falsifié, ça a été recopié, c'est plus ce que c'était avant. Non, non. La Bible est restée intacte et fidèle tout au long des siècles. Dieu a dit qu'il gardera sa parole. Donc cette parole n'a jamais été modifiée. Elle est telle que Dieu nous l'a donnée et c'est Dieu lui-même qui le dit. Donc nous pouvons faire confiance pour être sur une bonne base. Alors comme on a parlé de tout ça, comment se fait-il? Comment vous dites oui, mais alors, si la Bible dit tout ça, et puis l'Église catholique fait autrement, comment c'est arrivé qu'elle fasse autrement? Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas quelqu'un qui a dit « Non, le baptême par immersion, c'est fini, on va baptiser les bébés. » Non, ce n'est pas comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à penser « Le baptême donne la vie de Dieu. » Quand vous êtes baptisé, vous recevez la vie de Dieu. Et immédiatement, ils ont dit « Mais alors, un enfant en bas âge, s'il meurt et n'a pas la vie de Dieu, il va en enfer. Donc il faut qu'il soit baptisé pour recevoir la vie de Dieu. » Vous voyez comment ça peut arriver? Comment ça peut évoluer? Et alors, il y avait des gens aussi qui ne pouvaient pas mettre la tête sous l'eau, des malades. Ah, mais ils ne peuvent pas mettre la tête sous l'eau. Mais il faut qu'ils reçoivent la vie de Dieu. Mais ils vont mourir, aller en enfer parce qu'ils ne peuvent pas mettre la tête sous l'eau. Alors, on va asperger avec de l'eau sur la tête, comme ça, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peu à peu que les choses ont changé. Après, comme on a vu, ce que Dieu nous demande, c'est de croire que Jésus est mort pour nos péchés. De croire et de recevoir Christ comme notre sauveur. C'est une décision. Ça prend un instant. Mais, quand on avait des foules qui entraient dans l'église, on a dit, maintenant, il faut faire un catéchisme. Et si vous avez été à l'église catholique romaine, vous avez suivi le catéchisme pendant environ 3 ans. Normalement, c'est à peu près 3 ans. Et toutes les semaines, on va et le prêtre ou le catéchiste nous fait le catéchisme. Et donc, on étudie, on nous pose des questions, on répond, ça entre ici, on reçoit de la connaissance. Et à un moment donné, on dit maintenant, vous avez fini le catéchisme, vous êtes prêt pour la première communion. Et on a une aube blanche, on se présente, l'évêque vient pour l'occasion, et puis recevez le Saint-Esprit, et ça y est, on est en communion avec Dieu. C'est ce que l'on dit. Mais avez-vous remarqué combien d'enfants, après la communion, la première communion et la communion solennelle, est-ce qu'ils continuent à aller à l'église? Non. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont eu une connaissance ici, mais ce n'est jamais venu jusque-là. Le cœur n'y est pas. Et ils disent, et ils n'ont pas tort, je sais des choses, mais ça ne m'aide pas à vivre, ça ne touche pas à ma vie. Alors je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps à y aller. Et donc les adolescents se détournent de cette église très souvent. Pourquoi? Parce que ce que Dieu demande, ce n'est pas que l'on remplisse la tête. Il veut que l'on croie dans son cœur. Que ça vient de notre cœur. Et si on croit en Jésus et qu'on le reçoit dans notre cœur avec notre, comme on dit aujourd'hui, avec nos tripes, c'est-à-dire pas juste la tête, avec vraiment, alors on croit dans le Seigneur et là on va rester fidèle. Mais juste recevoir la connaissance, ça ne change pas les gens. Etc. Donc, alors aussi la chose, c'est que dans la Bible, la foi, c'est personnel. Lui, il croit en Dieu. Lui, il ne croit pas en Dieu. C'est personnel. Mais dans l'Église catholique romaine, la foi est collective. Quand un enfant est baptisé, il devient partie de l'Église catholique romaine. J'étais il y a quelques années en service funéraire pour un ami de notre village qui s'appelait André. J'ai bien écouté ce que disait le prêtre. Alors, ce fameux André, il était sympathique comme tout, mais il n'était pas du tout pratiquant. Il avait une vie qui n'était pas tout à fait morale, et tout le monde le savait, mais il a été enterré, bien sûr, à l'église. Et le prêtre, il dit dans sa prière, « Seigneur, ne regarde pas les péchés de ton serviteur André, mais regarde la foi de ta Sainte Église. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là, André n'a pas vécu une vie chrétienne, parce qu'il a fait beaucoup de péchés, mais comme il a été baptisé catholique quand il est petit, il est sauvé par l'Église. C'est l'Église qui l'a sauvé. Que dit la parole? Jésus-Christ est le seul sauveur. C'est pas une Église qui peut nous sauver, c'est Christ qui est le sauveur. Il a dit, Jean a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et notre pauvre ami André, je ne pense pas qu'il ait jamais placé sa foi en Jésus-Christ. Mais comme ses parents l'ont fait baptiser à l'église quand il était enfant, le prêtre a dit, c'est l'église qui doit le sauver. Est-ce que vous voyez le problème qu'il y a là? Et donc, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le deuxième siècle, dans le troisième siècle, on arrive au troisième siècle. Le troisième siècle, c'est un empereur romain qui s'appelle Constantin. Vous avez entendu parler de Constantin? Constantin était contre les chrétiens et ses prédécesseurs, on les persécutait, on les tuait, les vrais chrétiens. Pendant 3 siècles, les chrétiens ont été tués. Il n'y avait pas d'église catholique romaine, c'était juste les chrétiens qui se basaient sur la Bible. Et les Romains ont dit, mais ces gens-là, on ne les veut pas, parce que les gens qui croyaient la Bible n'adoraient pas l'empereur. Et l'empereur disait, je suis Dieu, il faut m'adorer. Alors il y avait les païens qui adoraient Diane, qui adoraient Zeus, qui adoraient Jupiter, qui adoraient Cupidon, qui adoraient, voilà, tout ça. Alors, on ajoute l'empereur avec, on va adorer l'empereur aussi. Il n'y a pas de problème, on peut adorer plusieurs dieux. Mais le chrétien, lui, il adore un seul Dieu, par Jésus-Christ. Et il dit, nous ne pouvons pas adorer l'empereur, c'est un simple homme comme nous. Ah, si vous n'adorez pas l'empereur, on va vous tuer. Et donc, on les a amenés dans les grands stades, dans les grands colisées, des arènes, et on les a donnés aux lions, qui les déchiraient, qui les tuaient. Ou on les livrait à des gladiateurs qui les tuaient. Parfois, on les mettait, on les cousait dans des peaux d'animaux. On les mettait en plein soleil et le peau d'animal se rétrécissait et étouffait les chrétiens. Des milliers de gens sont morts comme ça pour leur foi. C'est affreux. Pendant plus de 200 ans, il y a eu 10 persécutions successives. Et pourtant, il y avait des gens qui voyaient ces chrétiens mourir en chantant des cantiques. Il y avait un qui s'appelait... Il avait plus de 90 ans, cet homme. Et c'était un pasteur. Et il a été amené dans les arènes pour mourir, martyrisé. Alors l'empereur a dit, mais monsieur... Vous êtes très âgé. Écoutez, ça fait de la peine de voir un homme comme vous mourir dans les arènes avec des lions. Abjurez votre foi en Jésus-Christ. On vous laissera aller. Vous méritez de finir vos dernières années en paix. Renoncez à Jésus-Christ devant nous tous et vous pourrez partir tranquille. Et cet homme a dit, monsieur, il y a 86 ans, que je sers Jésus-Christ. Il ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été fidèle. Comment pourrais-je renier mon Sauveur et mon Dieu? Et l'empereur a dit, livrez-le au lion. Il est mort en chantant des cantiques. Eh bien, des gens qui ont vu ces chrétiens mourir en martyrs, beaucoup d'entre eux étaient bouleversés. Ils ont dit, eux, ils ont quelque chose que moi je n'ai pas. Et beaucoup d'entre eux se convertissaient en voyant les vrais chrétiens mourir. Et on n'a pas beaucoup d'histoires, on a quelques récits comme ça, mais on n'a pas beaucoup d'écrits parce qu'on brûlait leurs écrits à ce moment-là. Vers le 3e siècle, vous avez Constantin le Grand qui est allé livrer une guerre et il a vu une croix dans le ciel formée avec des nuages. Et il a une vision, au nom de la croix, vous allez être vainqueur. Il a été vainqueur, il a dit, ah, je proclame le christianisme, l'une des nouvelles religions de l'Empire romain. Tout à coup, on ne persécute plus les chrétiens. Et ça devient intéressant de devenir chrétien. Parce que l'empereur a dit, c'est bien d'être chrétien. Alors vous avez énormément de païens qui adoraient des idoles, qui ont dit, mais on va devenir chrétien. Et du coup, vous avez des milliers de gens qui entrent dans les églises chrétiennes. Avant, il n'y avait que des chrétiens persécutés et fidèles et fermes. Puis vous avez tous ces païens qui entrent et disent, nous aussi on est chrétiens. Comment on fait pour devenir chrétien? Mais il faut passer par la conversion. Ça y est, on est converti. Maintenant, on est chrétien. Le problème, c'est qu'ils avaient encore leurs idoles. Alors, des gens opportunistes qui ne croyaient pas vraiment à Jésus, Il disait, mais il faut gérer cette nouvelle réussite. On a beaucoup de nouveaux chrétiens, c'est merveilleux. Alors, ça c'est quelle idole que vous adorez? Ah, ça c'est le dieu poisson. Oneness. Oneness. Ah, on va le rebaptiser. Joannes, Saint Jean. Et le dieu poisson est devenu Saint Jean. Et un autre dieu est devenu un autre dieu. Et puis un autre. Et ça c'est Diane, la déesse de la fertilité. Ah, mais c'est la Sainte Vierge Marie. Et du coup, on a donné des noms chrétiens à des idoles païennes et on a amené les idoles dans l'Église. Avant, il n'y avait que la Bible et les croyants. Maintenant, vous avez de belles églises parce qu'il y avait de l'argent et vous avez des idoles qui ne sont plus des idoles, bien sûr, mais c'est devenu, soi-disant, des saints. Mais c'est quand même des idoles. Et les gens qui avaient l'habitude de les adorer venaient les adorer. Et maintenant, les prêtres disaient, non, mais vous ne l'adorez plus, vous le priez. Vous priez les saints. Du coup, les gens qui étaient païens, qui avaient plusieurs idoles, ils n'ont pas changé. C'est qu'on a juste renommé leurs idoles en nom de saints et on reste païen tout en devenant chrétien. Que se passe-t-il? On perd le message de Jésus-Christ. L'empereur romain, un peu plus tard, un empereur romain, il avait vaincu un peuple et le prêtre, le chef prêtre de ce peuple s'appelait Souverain Pontife. Il a dit, je vous donne mon titre à vous, empereur de Rome. Alors l'empereur de Rome devient le souverain pontife. Et il dit, non, mais moi je suis un empereur politique, je ne suis pas un prêtre. Il se tourne vers l'évêque de Rome et dit, c'est vous qui êtes maintenant le souverain pontife. Et c'est comme ça que le souverain pontife a eu son nom, c'est que c'était hérité d'une religion païenne, passé par l'empereur romain et donné à l'évêque de Rome. Et on pourrait multiplier les exemples. Alors pendant tout ce temps-là, pendant que ça se bâtissait dans l'église chrétienne officielle, on a commencé à mettre l'évêque de Rome devenant souverain pontife. Très vite, on a dit, il est au-dessus des autres évêques et on a installé la papauté au VIe siècle, Grégoire le Grand. C'est le premier grand pape. Vous avez entendu parler de Grégoire le Grand. Grand pape qui a vraiment structuré l'église de Rome. Pendant ce temps-là, vous avez des gens qui sont en train de lire la Bible, des prêtres notamment, de l'église, qui lisent la Bible et qui disent, mais je ne trouve pas dans la Bible tout ça dans l'église. Je ne trouve pas dans la Bible des statuts, je ne trouve pas dans la Bible toutes ces prières à tous ces saints, je ne trouve pas dans la Bible le pape, je ne trouve pas dans la Bible qu'on change l'hostie en corps du Christ, je ne trouve rien de ça dans la Bible. Et ils ont commencé à prêcher, revenons à la parole de Dieu. Il y avait plusieurs et on les a tués. Je vais vous parler de quelques Français. En 998, donc 11e siècle, un homme qui s'appelle Béranger de Tours, il était chef de la cathédrale de Tours, voilà, la tour en Touraine, hein, et il prêchait avec enthousiasme, éloquence, il disait, il faut croire en Jésus-Christ. C'est la base de la vie chrétienne. On ne prêchait pas ça, mais lui, il le prêchait. Et il dit, les sacrements, ça n'a aucune valeur. La tradition, c'est pas la peine. Il a dit, le baptême des enfants ne sauve personne. Et il disait, et le prêtre, il ne peut pas changer le pain en corps du Christ. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a fait de cet homme? On l'a persécuté. Il est mort, banni sur l'île de Cône, près de Tours. On l'a banni sur une île. Mais après sa mort, on a dénombré 800 000 personnes croyaient ses enseignements. Ça, c'est en Tours, 11e siècle. Un autre homme, Pierre de Bruy, il était originaire du Languedoc. C'était un prêtre catholique. Et il commence à s'élever contre les fausses doctrines de l'Église. Alors lui aussi, il insiste sur la conversion personnelle à Jésus-Christ. Il disait que la Bible était au-dessus de toute religion, que le baptême ne sauve pas, que le corps du Christ n'est pas dans la messe. Il dit que les enfants ne doivent pas être baptisés avant de comprendre le salut. Il rejetait la doctrine du purgatoire. Il a dit qu'il ne faut pas prier pour les morts. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a brûlé vif à Saint-Gilles, dans le Languedoc, en 1126. Un autre homme, Henri de Lausanne. Henri de Lausanne, et c'était 1147, donc 12e siècle. Un prêtre catholique suisse. Il est descendu dans le sud de la France et il est allé vers Pierre de Bruy. Mais vous connaissez la ville du Mans, la ville du Mans. Donc l'évêque de la ville du Mans devait aller voir le pape à Rome. Il a demandé à Saint Henri de le remplacer à sa cathédrale comme prédicateur. Donc Henri de Lausanne monte au Mans et là il voit dans l'église beaucoup d'immoralité, beaucoup d'adultère, beaucoup de pédophilie, enfin des choses terribles. Il commence à prêcher contre ça. Il a vu le clergé qui était corrompu. Il commence à prêcher contre ça. Il a vu des gens, des membres du clergé qui aimaient les richesses et qui cherchaient des richesses. Il dénonce tout ça. Et quand l'évêque du Mans revient de Rome, il retrouve sa cathédrale et il dit « Wow, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il voit que Henri de Lausanne avait prêché. Et Henri, il l'a chassé du Mans, parce que ça le dérangeait. Et Henri de Lausanne est descendu dans le Midi et il a fondé plein d'assemblées bibliques avant l'heure. Et il pratiquait le baptême par immersion. Après, il y avait Arnaud de Brescia, un prêtre italien, né à Lombardie, et il s'élève contre le pouvoir politique de l'Église. Et lui, il dit, ça serait bien d'avoir des républiques démocratiques avec la liberté de conscience. Qu'on n'ait pas une religion imposée, que chacun croit comme il veut. Et puis, que tout le monde soit bon citoyen. Et il était contre le baptême des enfants et les sacrements de l'Église. Et il disait, ce n'est pas bon que les prêtres soient soutenus par le roi et par les impôts. Ça serait bien que les pasteurs soient soutenus par les fidèles. C'est les fidèles qui doivent soutenir les prêtres et pas le gouvernement, ce qui est très bien. Et donc, il a été chassé d'Italie. Il s'est réfugié en France. La France l'a chassé. Il est allé en Suisse. Il était pourchassé en Suisse. Il est revenu à Rome. Et à Rome, on l'a pendu. Après, on l'a brûlé et après, on a jeté ses cendres dans le Tibre. Voilà comment on a traité cet homme. Alors, avec toutes ces persécutions, les églises basées sur la Bible ont pratiquement disparu de l'histoire. On ne sait pas grand-chose sur eux. Pendant tout le Moyen-Âge, c'était du 11e au 15e siècle, on en entend presque parler, sauf En 1176, il y avait un riche marchand de Lyon, Pierre Valdès. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de Pierre Valdès? Pierre Valdès, hein? Valdès et Valdo, oui, c'est la même chose, oui. Un riche marchand de Lyon qui a entendu l'Évangile, qui a cru en Jésus-Christ. Et il a pris vraiment au pied de la lettre la parole de Jésus, « Va, vends tout ce que tu as » et donne-le aux pauvres. Alors ce qu'il a fait, il a pris son argent et il a acheté de la nourriture et il faisait de la soupe, des repas, et tous les pauvres venaient. Et il nourrissait les pauvres à Lyon tous les jours. Et des centaines de gens venaient manger et c'est lui qui payait tout. Parce qu'il voulait montrer l'amour du Christ. Et pendant que les gens mangeaient, il leur prêchait l'évangile. Alors, ça a beaucoup touché les gens. Et il a commencé un mouvement missionnaire pour aller annoncer l'évangile ailleurs. Et donc, le mot Valdés ou Valdo veut dire « vallée » en latin. Et en fait, il y avait dans les vallées des Alpes italiennes. Donc, vous avez les Alpes françaises, les Alpes italiennes. Vous avez dans ces Alpes, vous avez des vallées, tout à fait, mais très très haut, à 2000 mètres. Et dans ces vallées, il y avait des communautés bibliques qu'on appelle des Vaudois. Et ces communautés bibliques, donc, c'était quelques petites communautés, enfin, il y avait quand même beaucoup de monde dans ces vallées, mais ils étaient tellement haut placés que les armées françaises et italiennes ne pouvaient pas très bien les atteindre. Donc, on les a laissés tranquilles. Et du 5e siècle au 15e siècle, ils ont adoré le Seigneur avec la parole de Dieu. Pendant 1000 ans, ils ont été là-haut, protégés. S'ils descendaient, ils étaient tués. Ils sont restés dans leur ferme, ils ont adoré le Seigneur, et ça s'appelle les Vaudois. Et les Vaudois, eh bien, ils étaient totalement indépendants de l'Église de Rome. Et alors, il y avait quand même, en 1500, il y avait quand même 450 assemblées vaudoises dans les Alpes. Il y avait, on estime, 250 000 chrétiens fidèles à Dieu dans ces vallées des Alpes. Donc, quand Jésus a dit « Je bâtirai mon église », ces gens-là ont maintenu le témoignage pendant 10 siècles. Quelle fidélité! Et savez-vous quoi? Quand on a traduit la Bible en français, c'était le cousin de Jean Calvin, qui s'appelait Robert Olivitan, qui a traduit la Bible du grec et de l'hébreu en français. Ces églises vaudoises ont financé l'imprimerie de la première Bible française. Et dans cette première édition, vous avez l'introduction où ils disent « Nous vous donnons cette Bible à l'Église de France afin qu'en lisant ce livre, vous découvriez la liberté en Christ, le salut en Jésus-Christ et tout ça, la parole de Dieu. » C'est très touchant de penser que ces chrétiens-là ont financé la Bible pour la France. Et donc, nous allons nous arrêter ici, mais le but cet après-midi, c'est de vous montrer que si on ne reste pas sur le fondement de la Bible, on peut partir dans tous les sens. Parce que l'homme, nous sommes des êtres religieux. On a envie de croire quelque chose. Mais nous avons aussi une tendance à l'idolâtrie. Vous avez aujourd'hui, les jeunes de nos jours ne vont pas se mettre devant des idoles, se prosterner devant des idoles. Ils vont être dans l'adoration devant les vedettes de la chanson. Des rappeurs et des jeunes comme eux. Ils sont là, ils sont dans l'extase, ils sont comme dans un culte, ils sont dans l'adoration, voyez. Donc, ça dépend ce qu'on aime. Mais les gens, ils ont besoin d'adorer quelque chose. Et si on n'adore pas Dieu, le Créateur, on va adorer une idole. Ce qui fait que on peut même dire « Ah, c'est une église chrétienne, mais on entre et on voit des idoles. On voit des gens qui prient devant des statues. On voit des gens agenouillés à prier la Vierge Marie. Tous sincères. Ils sont sincères. Mais la parole de Dieu dit, on prie Dieu seul, le Créateur, par Jésus-Christ, le seul médiateur. Et donc la Bible est simple et claire, et l'homme est compliqué. et il se perd. Et il ne trouve pas la paix, il ne trouve pas la joie, il ne trouve pas le salut, parce que c'est en Jésus-Christ seul. Et mes amis, pendant tous ces siècles, il y a eu des hommes et des femmes, comme vous et moi, qui ont placé leur confiance en Christ. Et quand on est venu leur dire, nous vous demandons de renier Jésus-Christ et on vous laisse vivre. Si vous persistez à prendre position pour Jésus-Christ, vous allez mourir. Ils ont dit, faites ce que vous avez à faire, mais moi je ne renie pas le Seigneur. Mais ils sont morts. Morts pour leur foi, martyrisés. Et plus l'Église a été persécutée, plus l'Église a grandi. Au point qu'un pasteur du 3e siècle a dit, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Si on avait le choix, c'est vrai que personne d'entre nous ne veut souffrir. Est-ce que nous préférerions vivre quelques années de plus dans le mensonge? Ou est-ce que nous préférerions mourir pour la vérité éternelle? Si nous devions être persécutés, Dieu nous donnerait le courage de prendre position pour lui, quoi qu'il arrive. Parce que ces gens-là n'étaient pas meilleurs que nous, mais Dieu leur a donné le courage et la force de ne jamais renier leur foi. Jésus a dit, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, nous savons que nous sommes tous des pécheurs. La Bible est claire que Jésus seul a pu payer pour nos péchés, et il a fait. Et en lui, il y a le salut et la vie éternelle. C'est le message de l'Évangile sur lequel l'Église de Jésus est bâtie. Et 20 siècles après, dans une petite ville à Brive, dans un petit local, il y a encore des gens qui y croient.
Amen.
Et c'est la preuve que Jésus a dit, je bâtirai mon Église.